Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence hein, cette revue de presse avec...
Alors aujourd'hui, Marie, et je dois dire que je salue l'exploit, tu t'es astreinte à une revue de presse sans notre héros national, sans François Fillon.
Oui, j'ai essayé de faire ça, Rémi. Ce sera mon objectif du jour. Bon allez, j'en parle juste un tout petit peu. Ce sera 0,01% de François Fillon. J'en parle maintenant parce que le gros titre du Canard enchaîné était assez bien trouvé ce mercredi. Fillon, victime d'un travail de sape. Voilà, moi ça me fait rire. Bon allez, maintenant. On est sérieuse, je ne vais pas vraiment parler du sourcilleux aujourd'hui. Le Canard attire d'ailleurs plutôt notre attention sur un mec dont on n'a absolument rien à foutre en ce moment. J'ai nommé Jean-Louis Borloo. Ah oui, que vous aviez tous oublié Jean-Louis Borloo autour de ce plateau.
Eh bien oui.
Oui. Alors, on l'avait tous oublié. Eh bien, le Canard le surnomme la fée électricité du continent africain dans les colonnes du journal. Petit rappel pour Mathias, là, qui a l'air de pas suivre au fond. Le 3 mars 2015, le blanc chevalier Borloo lançait son agence Énergie pour l'Afrique avec comme but d'électrifier donc tout le continent et de sauver toute cette Afrique de sa pauvreté endémique. Rien que ça. Et l'homme politique enchaîne depuis les promesses. Mais oui, tout le monde va raquer, vous allez voir. La France fournira 2 à 3 milliards par an. Et puis l'UE va casquer aussi à hauteur de 3 milliards par an. Et l'ONU et la Banque mondiale aussi vont mettre la main à la poche. Et tout ça pendant 15 ans.
Ouais, alors ça semble peut-être un peu trop bien pour être vrai tout ça, non ?
On ne peut rien te cacher, Rémi. Ah. Actuellement, personne n'a donné d'accord franc pour refiler du flouze à l'Afrique. Les journalistes du Canard concluent que Borloo produit peu d'énergie mais brasse énormément d'air. La moitié du budget réel de son agence est partie dans ses 130 voyages en avion pour des visites auprès d'autocrates et présidents divers. Ça fait un bilan carbone assez mauvais. Et puis surtout, quand on se rend en Afrique subsaharienne, on se rend rapidement compte que les villages et petites villes s'équipent elles-mêmes en achetant quelques panneaux solaires, panneaux qui sont devenus beaucoup plus abordables ces dernières années. Leur prix a été divisé par 10. Alors Jean-Louis, arrête de croire que les populations africaines ont absolument besoin de ton grand secours d'homme blanc. Merci bien.
Et on passe maintenant au Monde qui proposait ce matin une enquête sur un homme de l'ombre, contrairement à Jean-Louis.
Voilà, alors le quotidien consacre une double page au mystérieux Marc Ladret de Lacharrière, titre de l'enquête « L'ami public numéro 1 ». Trois journalistes essayent de cerner le mystérieux propriétaire de la revue des Deux Mondes, dont on a pas mal parlé ces temps-ci. Ladret de Lacharrière, c'est un milliardaire français, proclamé plus grand réseauteur de France par les journalistes du Monde. Alors ils essayent de reconstituer sa galaxie d'influence, parce qu'on peut vraiment parler de galaxie, dans une infographie simplifiée. Galaxie donc qui va de la promo 1968 de l'ENA à l'agence de notation financière Fitch, en passant par le mécénat de musées, des holdings et tout un tas d'autres choses. Une galaxie qui regroupe à la fois Giscard et Fillon, Hollande et Fabius, Dati et Aubry. Même le Monde a reçu des sous de la part de Ladret de Lacharrière dans les années 90. Alors quoi ? Les journalistes sont allés le rencontrer, ils essayent d'ironiser un peu, de jouer les satiristes, mais bon, ça reste léger, hein. On n'est pas au Canard enchaîné, c'est le Monde. Ou alors oui, Ladret de Lacharrière, quand on le rencontre, il triture nerveusement son sous-main en cuir. Non, il ne dément pas avoir embauché Pénélope Fillon à la revue des Deux Mondes parce que Bichette était déprimée après le départ de Matignon. Bon, c'est le Monde et clairement, niveau critique, on a vu plus corrosif.
À propos de critiques, il y en a un qui s'en prend des critiques, mais ça n'a pas trop l'air de les gratigner.
Oui, et il s'agit bien sûr de l'inénarrable Emmanuel Macron. Le Courrier international lui dédie sa une dans le numéro de cette semaine. Macron, une énigme française, la percée spectaculaire du candidat d'En Marche n'en finit plus d'étonner la presse étrangère. Alors, moi j'ai parcouru les articles ce matin, du New York Times à El País en passant par Die Welt, et ce qui en ressort, c'est que personne, mais alors vraiment personne, ne comprend. Macron est inexplicable, il existe, il est, et c'est tout. Bon, par contre, ça tacle assez violemment, et c'est le Milanais Federico Iarlori, pardon, qui fait ça le mieux dans un édito pour l'Inchiesta, donc journal milanais. Pour lui, Macron, c'est ce patineur, vous savez là, qui a remporté la médaille des Jeux Olympiques 2002, parce que tous ses autres concurrents s'étaient cassés la gueule. Macron, c'est un ancien ministre qui, curieusement, n'est pas éraflé par le bilan du quinquennat Hollande. Macron, c'est un mec populiste et sans programme que la presse a porté au nu. Un messie jeune et fragant. Macron, c'est juste un mec né sous une bonne étoile.
L'explication par la destinée, c'est beau. Bon, c'est plutôt douteux, mais au moins on rigole un petit peu. Et puis sur l'électorat de Macron, d'ailleurs, Libération a peut-être son mot à dire.
Oui, ce matin, on trouvait dans Libé ce gros titre, « Gauche, le dilemme du vote utile », incrusté sur un gros plan du visage de Macron. Bon, c'était plutôt la couverture du malaise, mais on n'est pas là pour commenter les choix esthétiques de Libé. Par contre, on est là pour discuter de la publicité mensongère. Alors une fois qu'on ouvre le journal, le « dilemme du vote utile » devient « 2017, enquête sur les nouveaux frondeurs du PS ». Alors oui, d'accord, les journalistes sont allés recueillir plusieurs témoignages de militants PS, ok. Oui, il y en a un qui explique qu'à côté du programme de Fillon, eh ben Macron, c'est un programme de gauche, je vois pas de quoi on se plaint, franchement. Et puis, surtout, il y en a un qui explique
Oula, on reprend.
Pardon. Mais j'ai lu tous ces témoignages très très attentivement, je vous l'assure. Et surtout, ce que j'ai lu, c'est que ce sont des témoignages de gens terrorisés à l'idée d'un nouveau 21 avril, des gens qui vont voter Macron malgré eux, des gens tristes, des gens résignés, des gens qui voteront en étant certains de manifester contre lui dès le mois suivant s'il est élu. Et où vont donc tous ces votants, dont pas un seul ne rit, pour pasticher Victor Hugo ? Alors, je voudrais faire une petite pause. J'aimerais bien qu'on arrête d'employer le terme « frondeur » à toutes les sauces, comme on le fait depuis plusieurs mois. Les socialistes qui ont été interviewés par Libé, ce ne sont pas des frondeurs. La fronde, c'est un concept de l'histoire française, issu du XVIIe siècle. Et c'est un concept qu'on a projeté. Voilà, ça m'arrive parfois encore d'avoir des sursauts comme ça. Donc, ce concept de fronde, c'est un concept qu'on a projeté sur les députés qui se sont opposés aux programmes sociaux et économiques des gouvernements Hérault et Valls ces dernières années. Bon, je ne suis pas là pour juger de la pertinence de ce rapprochement qui ressemble à un grand écart entre le 17e et le 21e, admettons. Mais quand on dit frondeur, on imagine quand même des gens qui se rebellent, des gens qui prennent position contre le système, des gens qui ont un comportement d'opposition. On est actif quand on est frondeur. Voter Macron par défaut ou par peur, je suis désolée, ça n'est pas être frondeur.
Merci beaucoup Marie pour ce petit coup de gueule d'historienne qui, après tout, ne nous fera pas de mal, je pense.
Voilà. Et puis je tenais à faire passer un petit message aujourd'hui, puisque c'est les 9 ans de Mediapart aujourd'hui, donc j'aimerais qu'on souhaite un bon anniversaire à Mediapart.
Eh bien, bon anniversaire à Mediapart et à tous ceux qui sont nés un 16 mars et qui nous écoutent attentivement. Il c'est paraît important. Que j'en connais, figurez-vous. C'est fantastique. Bien, eh bien, chers auditeurs, si vous aussi vous êtes nés le 16 mars, voilà, nous avons chanté pour vous et nous allons immédiatement passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Nous allons passer à votre nez avec cet édito scientifique. Bonsoir Alice.
Bonsoir.